On inspire. On expire. On respire. On souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
La réintroduction vise généralement à restaurer des noyaux viables de populations d'espèces dans les régions où les populations sauvages ont disparu. Les objectifs sont généralement éthiques et de protection de la nature, mais l'espèce réintroduite peut aussi permettre le rééquilibrage d'un écosystème. En Alsace, la cigogne, la loutre et plus récemment le grand hamster sont des espèces réintroduites. Allons à leur rencontre dans un centre de réintroduction.
Tu as de la chance aujourd'hui de le voir, c'est que tu as des cigogneaux qui ont moins de 2 jours. Donc tu les vois dans cette phase-là, ça c'est, on appelle ça un incubateur, c'est dans lequel on va mettre les œufs qu'on va récupérer de certains nids de la volière de reproduction. On va les mettre dans cet incubateur. Une fois qu'ils vont commencer à piquer, on va les mettre sur ce plateau en hauteur avec une température un tout petit peu moins importante. Tu vas voir l'œuf, là pour les enfants, c'est génial. T'as l'œuf qui va piquer, donc.
Tu vois le petit bec qui sort.
Et tu vois le petit bec. Et au-dessus du bec, en fait, là, on le voit pas parce qu'il est couché. Mais regarde celui-là. Si tu, il a encore bougé la tête. Mais on appelle ça le petit diamant, un tout petit truc blanc. Tu le vois là?
Ouais, on le
juste sur l'extrémité du bec là. Tu vois, dès qu'il va lever la tête, tu risques de le voir. Et avec ce petit diamant qui va perdre au bout de quelques semaines, enfin même pas une semaine, il arrive à découper la coquille. Paf, tu vois s'ouvrir. Donc c'est super, super top pour les enfants. C'est là. Après, il y a une phase différente. On va les mettre ici. Quand ils seront un peu plus gros, ils auront au troisième jour. On va les mettre là. Quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et après, ils seront dans les nids qu'on voit derrière. Ça nous permet après de pouvoir faire des nourrissages devant les gens, de donner les informations du parc qui sont importantes, pourquoi le parc et la réussite aujourd'hui, parce qu'on peut dire que c'est une réussite, au bout de 30, plus de 30 ans, d'avoir réussi à sauver la cigogne, parce qu'on y est pour, un peu pour quelque chose.
Et là, les cigognes qu'on a devant nous, elles ont des parents ou pas? Parce que là-bas, on voit un nid avec... donc, tu disais que c'était un mâle qui s'occupe des bébés, mais là, elles sont orphelines.
C'est nous les parents. Alors, en fait, ceux-là ont été récupérés dans un nid de la volière de reproduction où personne ne peut aller. C'est des cigognes qui ont plus de 3 ans, qui sont matures, qui se reproduisent. On leur prend une partie des œufs. La cigogne va faire entre 4 et 6 œufs. Nous, on va en prélever une petite partie pour être certain d'amener à pratiquement à 90 voire 100% de taux de réussite, de maturité pour la cigogne. On va dire, en tout cas, moi, je préfère au jour d'aujourd'hui, si on avait cette solution, et elle peut fonctionner, c'est d'avoir des couples adoptifs. Je préférerais, ça serait plus naturel que de le faire comme on le fait nous, où on essaye de pas avoir de manipulation avec les oiseaux. Mais il y a quand même un contact qui est beaucoup plus important que celui que tu peux avoir ici. Avec ce couple, qui est même s'il y a une barrière de 2 mètres tout autour, il voit quand même un ensemble de touristes, mais que je viens de dire, soit 2 mètres, que soit 6 mètres, parce que là, regarde tous les nids, pas plus de 6 mètres, voilà. Donc, est-ce que le comportement est différent? Peut-être, un petit peu, c'est possible. En tout cas, ça serait plus naturel de faire comme ça. Ça n'a pas été réellement ce qui a été fait ici. En tout cas, on va dire qu'après 30 ans, on voit bien que les cigognes qui ont toutes été élevées à la main, maintenant niche soit dans le parc soit dans les villages avoisinants et que ça n'a pas posé de soucis quoi. C'est sûr que peut-être ce qui peut arriver, c'est déjà arrivé, c'est qu'il y ait des gens à un moment donné qui se retrouvent avec un nid de cigogne pas très loin de chez eux et s'ils commencent à la nourrir, la cigogne elle va se rappeler que voilà qu'elle peut aussi avoir facilement de la nourriture. Alors est-ce que je vais pas avoir tendance à venir avant qu'on me nourrisse, me rapprocher de mon lieu de nourrissage? Mais on va dire que la cigogne aussi, elle est anthropophile. C'est, on dit ça, anthropophile, c'est comme le pigeon, c'est comme le merle, c'est comme le rouge-gorge. Anthropophile, c'est les oiseaux qui vivent près des habitations. Elle a toujours été là, elle vit pas en forêt, la cigogne blanche, hein. La cigogne noire vit en forêt. Mais la cigogne blanche, elle vit près des habitations. C'est aussi peut-être pour ça qu'elle a eu une bonne image, une bonne renommée. Tiens, je voulais te montrer juste un truc ici. Oh, ce qui me touchait à cœur, c'était plus ça. C'était pour les enfants. Allez, voilà, tu vois, regarde. Ils font un truc dans ça. C'est un truc tout bête. J'ai mis au point. Tu ouvres une boule. C'est une boulette de glaise. Donc, bien sûr, faut récupérer l'emballage. Hein. Aujourd'hui, si tu fais pas déjà ce geste, t'as tout faux. Donc c'est des boulettes de glace qu'on met dans du cellophane pour éviter qu'elles sèchent.
Donc c'est une machine, on a mis une pièce dans une machine et il y a une boule en forme d'œuf qui tombe.
Ça c'est nous qui les avons fait. Hein.
Ah d'accord.
Tiens, je vais t'en donner la moitié, un peu. Et puis Evan, l'idée c'est que pour les enfants, ils puissent garder un souvenir d'une empreinte d'un animal. Donc ils vont faire le choix, sanglier, chevreuil, renard, la marthe, je sais pas, ou moi j'aime bien c'est l'écureuil ou le pivert qui se trouve là. Par exemple l'écureuil, t'arrives, tu prends ta boulette de glaise, tu la reformes un peu, tu la mets sur le négatif de l'empreinte qui a été fait en résine, tu ressoulèves et tu repars avec ce petit souvenir. Je trouve ça génial. Tu le fais sécher au soleil pendant 2 heures et voilà. Tu commences déjà à toucher un tout petit peu bêtement, mais tu arrives en fait apprendre à connaître les animaux, c'est déjà commencer à les respecter. Donc c'est là où tu te rends compte que si tu fais pas quelque chose dès le départ pour des gamins, et à toi de trouver la solution pour qu'il y ait un pourcentage, quel qu'il soit, de gamins qui gardent un truc et qui disent tiens, ouais, c'est vrai. Ce serait dommage de ne plus pouvoir faire d'empreintes comme ça de hérissons ou d'écureuils.
Quand tu connais pas quelque chose, je sais pas, on est tous pareils.
Si je t'en fais une là, tu veux la reconnaître? Si je prends ta boule de glace,
tu vas
retrouver ce que c'est?
Ouais.
Alors vas-y, ferme les yeux. Tu regardes pas ce que je fais.
Je les connais par cœur, c'est moi qui les ai.
Et il me l'a marqué en braille parce que ça. Mais comme je sais pas lire le braille, d'accord. Donc là, oui, il y a des enfants, c'est ce qu'ils s'amusent aussi à faire.
C'est
donc
vrai.
T'es resté un grand enfant.
Donc ça, c'est récent toutes ces animations, hein.
C'est ce qu'on a fait cette année pour les enfants, quoi. Tiens, question. Le moustique se nourrit-il uniquement de sang? Vrai ou faux?
Faux.
Vrai. Faux. Ouais.
Il se nourrit de sang seulement quand la femelle est enceinte.
Bien. Bah, tu devrais travailler au parc, toi. Ou t'aurais dû m'aider à faire les questions. Parce qu'effectivement, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est vrai et faux. En fait, le moustique se nourrit de nectar et de pollen, comme la plupart des insectes. Mais après l'accouplement, seule la femelle pique par nécessité. Sans apport de protéines fournies par le sang, la ponte de ses œufs ne pourrait avoir lieu. C'est fou, hein.
Donc le mâle ne pique pas, donc...
Ici, là, tu vois le criquet ou sauterelle. Comment, à ton avis, on peut les différencier entre le criquet et la sauterelle? Donc là, on a deux insectes. Le truc tout simple, hein, c'est par rapport à la longueur des antennes. Quand tu vois, en fait, que l'antenne est plus grande que le corps, eh ben, en fait, tu vois, les antennes sont aussi longues que le corps, c'est une sauterelle.
Est-ce que tu en as sur les abeilles? On parle beaucoup des abeilles en ce moment.
Ouais, il y a un truc qui est marrant, justement. Voilà,
l'abeille.
À ton avis, pour fabriquer 1 kilo de miel, combien de kilomètres les abeilles d'une ruche parcourent-elles? D'une ruche, hein. Question, 5000 kilomètres, 25000 kilomètres, 40000 kilomètres. Tu as bien répondu tout à l'heure à la question pour le moustique.
Donc, 40000.
Ouais, c'est ça. Sais-tu combien de fois une abeille ouvrière peut-elle piquer?
Une seule fois.
Une seule fois. Très bien. Elle pique qu'une seule fois, son dard muni de crochets reste toujours planté dans le corps de sa cible, qui entraîne forcément sa mort. Donc là, on parlait du moustique tout à l'heure. Pour son bien, on laisse le piquer. Mais là, il faut pas se laisser piquer par une abeille parce que c'est pas pour son bien. Elle meurt directement.
Elle meurt derrière. Hein. Ouais.
Ça lui arrache.
Pourquoi la cigale pourquoi son chant est très bruyant? Pourquoi la cigale chante, en fin de compte? C'est pour simplifier. Pourquoi la cigale chante? Elle chante. Tu le sais? Non.
pour attirer
les femelles. Ouais. Les femelles. Et elle chante parce que c'est aussi pour pas que le concurrent... Elle chante plus fort que l'autre, c'est pour ça que le ton monte. Pour, pour se faire entendre. C'est justement pour séduire. Et c'est l'équivalent d'un marteau-piqueur, au niveau décibels. Marteau-piqueur, mais je pense à tous ceux qui font leur jardin avec la tondeuse. C'est pour attirer les femelles. C'est toujours là. J'ai la plus belle maison et le plus beau jardin. Ils se font concurrence.
Ouais. Toi aussi, t'as une tondeuse?
Ouais, je suis assis dessus. Ouais. Bon. C'est des questions quand même qui sont ludiques, mais en même temps peuvent garder un bon souvenir.
Ouais. Ça, c'était fait par qui alors, ce petit jeu?
On l'a fait au parc.
Par le personnel.
Ouais, voilà, on s'amuse à faire ce genre de choses.
Ouais. On a autre chose là, on a des insectes. Là. Insectes ou pas insectes?
Bah, souvent, tu sais, les gens donc confondent en fait les araignées avec. Avec les insectes, et en fait c'est quand même deux choses complètement différentes. Pour les gens, une araignée c'est un insecte, mais non. Voilà, sinon il y a toutes sortes de questions là aussi qui sont marrantes. Les questions records, quel est le plus gros oiseau volant?
Ici chez nous?
Ouais.
Le gypaète barbu?
Non, t'aurais pu, mais ici c'est en France, c'est le cygne tuberculé. Le cygne fait 14 kilos. Quel est l'oiseau en France le plus petit?
C'est peut-être le martin pêcheur?
Pas loin, en tout cas, mais beaucoup plus petit. Tu as le roitelet à triple bandeau. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais il pèse juste 4 grammes, soit moins qu'une cuillère à café de sucre.
Wow.
Alors, tu vois, le colibri d'Hélène Mâle, lui, qui dans le monde, pèse que 2 grammes. Il fait 2 grammes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Là, on disait cuillère à café de sucre. Donc, ça fait deux fois, moitié moins. L'œuf de cet oiseau sera aussi petit qu'un petit pois. C'est quand même impressionnant quand tu vois ça dans ton assiette, un petit pois, tu te dis, tiens, il va y avoir un être vivant qui va sortir de cet œuf. Et un oiseau, quand c'est un insecte, c'est différent, mais là, c'est un oiseau, ça va voler après. Hein, donc voilà, il y a une question, quel oiseau pose le plus d'œufs par couvaison? Quel oiseau construit le plus grand nid? Quel oiseau détient le record de vitesse?
Ok, et quel oiseau est capable d'imiter ses congénères?
Bah, t'en as plusieurs, mais moi je sais que même les pies, les jets, ils arrivent, hein. Les corvidés sont très intelligents, donc ils arrivent à imiter les oiseaux de leur secteur. Et justement là, si tu veux, on peut aller près d'un nid de cigogne, comme ça je voudrais te faire entendre le bruit des cigognos. En fait, on dit quand elles sont jeunes qu'elles chantent, alors que quand elles sont adultes, elles craquettent.
Elle craquette ou elle claquette?
Elle claquette ou elle glotore, ça c'est le nom scientifique. Mais là, si tu veux bien te rapprocher, tu mets ton micro là. C'est génial. Donc celles-ci ont un mois et 10 jours. Alors ça leur arrive de claquer du bec.
Celui qui vient de se poser là, c'est une aigrette, non? C'est quoi?
Ça, c'est un héron garde-bœuf qui est en période nuptiale et de reproduction, donc c'est pour ça qu'il a la tête un peu orangée.
Et il est où son bœuf là?
Son bœuf? Bah, peut-être qu'il va venir sur notre dos à un moment donné, je sais pas. Là, ici, il est dans le parc là aujourd'hui. Maintenant, la journée, généralement, ils sont à l'extérieur et ils vont justement se promener dans les champs dès qu'ils surveillent. De toute façon, ils suivent un peu la cigogne qui, elle aussi, a une super vue et au loin, elle voit dès qu'il y a un agriculteur qui est dans les parages et qui est en train de travailler dans les champs. Ils savent très bien que l'agriculteur, il va soulever toutes sortes d'insectes, de petits rongeurs et les hérons garde-bœufs, généralement, sont juste derrière parce qu'ils se nourrissent principalement d'insectes.
Il y a du monde hein, dans ton parc là.
Ben, c'est un peu une obligation. Sans ce monde-là, on pourrait pas faire ce qu'on fait pour les espèces. Faut savoir qu'ici, quand mon père a monté le parc au départ, l'entrée est très gratuite, donc peu importe le nombre de gens qu'il y avait. Il y avait de toute façon pas autant de monde, ça c'est sûr. Mais il y avait que des cigognes en liberté et enfermées pour faire en sorte que les gens puissent voir de la cigogne, parce qu'il y en avait plus en Alsace, ou quasiment plus, quoi. Il restait plus que 10 couples. Donc les gens, les touristes ou les gens du coin, pour voir une cigogne, venez ici.
Ah, il y a du monde. Hein.
Attends, gratuitement.
Madame, bonjour. Vous venez
bonjour,
d'où?
Bonjour, de Suisse.
Et vous êtes venue ici, pourquoi?
Avec un groupe, en visite.
Et vous avez quoi là devant les yeux?
Des ragondins.
Des ragondins?
Oui.
C'est quoi ça?
C'est des gros rats.
Alors les ragondins, est-ce que c'est quelque chose qu'on a chez nous, ça?
Non, justement, ça, le ragondin, en fait, on le présente ici pour montrer aux gens la différence entre le ragondin et la loutre d'Europe. Hein, l'inconvénient l'inconvénient, si on peut appeler ça un inconvénient, en tout cas ce qui est certain, malheureusement avec le ragondin, il a été introduit et il pose de gros dégâts dans la nature. Donc parce que c'est déjà un rongeur, donc il a un rongeur, c'est quoi? C'est qu'il mange tout le temps, les dents poussent, s'il ronge pas, ses dents lui traversent le palais, donc déjà par obligation, sa morphologie veut dire je dois ronger. Donc déjà il mange beaucoup, presque je crois 60-70% de son poids par jour, donc voilà la grosseur déjà. Et puis il vit près de l'eau, donc dans les berges, c'est pour ça qu'ici on a mis des morceaux de bois partout. Il va creuser, il va fusiller les berges, donc il y a des dégâts à ce niveau-là. En plus de ça, il se reproduit deux ou trois fois comme un lapin dans l'année. Et ici, comme il vient d'Amérique du Sud, il n'y a pas de prédateurs. Là-bas, dans son pays, il y a le caïman. Ici, il n'y a pas. À part nous, encore le super prédateur, nous. Mais on n'a pas que ça à faire. Et voilà, malheureusement, il s'est adapté, il s'est reproduit ici. Et il y en a dans toute la France. Donc ça pose quand même de gros soucis.
Donc ça peut être intéressant de définir la notion d'introduction et de réintroduction.
Bah, c'est ce qui est le plus important ici. C'est exactement ce qu'on essaye ici de donner. C'est la différence, parce que tout le monde confond un petit peu, entre guillemets, introduction, indigène, autochtone, allochtone, enfin bon, tous ces termes. Voilà le pourquoi aussi du comment. Et c'est vrai que ici, comme mon père a eu la chance de pouvoir s'occuper de la cigogne et de la loutre pour la réintroduire, ben nous ici, on essaye derrière de passer ces messages sur les introductions, que ce soit pour la tortue de Floride, qu'on va voir un peu plus loin, ou sur le ragondin aujourd'hui. Bientôt, on essaiera de présenter le raton laveur, qui aussi a été une espèce introduite. Premier raton laveur trouvé en France, il venait d'Alsace, c'est marrant. Donc, d'où l'intérêt aussi de le présenter, enfin.
Voilà. C'est intéressant de voir que l'introduction donc d'une espèce peut souvent avoir des conséquences assez dramatiques sur les écosystèmes ou sur les populations d'autres espèces animales et végétales.
C'est pas la plupart, hein. On va dire qu'on a fait plus d'introduction et qui nous a été utile. Mais c'est vrai que parfois il faut savoir arriver à gérer les choses. Et parfois on n'y arrive pas, comme entre autres pour celui-là. Et ça s'est fait bêtement, c'était pas pour sa chair, c'était pour sa fourrure. Donc alors que la plupart des espèces qu'on va introduire, c'est plus pour nous nourrir nous. Mais pour trouver une diversité de choses, que ce soit des fruits, que ce soit un animal. Lui, c'était uniquement pour une question de mode, c'était la fourrure. Comme il se reproduit trois fois dans l'année, c'était plus facile de l'avoir chez soi que d'aller en Amérique du Sud, les récupérer là-bas, de les tuer, d'importer la peau ici. Ouais. Donc, les éleveurs, eux, ils avaient compris le truc. Ils donnaient un couple comme ça à des particuliers. Ils leur disaient, je reviens dans 6 mois. Je vous achète les petits, les peaux, les machins. Pour eux, les gens, c'était facile. Ils avaient 2-3 poules, en même temps 2-3 ragondins. Je plaisante, mais c'était un peu ça. Il y avait beaucoup de fermes. Et puis, à un moment donné, plus le système de mode, ça fonctionne plus. Ben, les particuliers, tu veux pas, c'est difficile, il va pas leur en vouloir. Enfin, si, un peu, mais quand même, ils les ont relâchés dans la nature. Mmh. Et ça s'est fait un peu dans toute la France. Donc,
au détriment de quel autre espèce?
Lui, bah, de toute façon, au détriment de plusieurs espèces, parce que même malheureusement, comme il est chassé, pour la loutre a disparu, une partie à cause de lui. Parce que lui, il a été piégé dans des pièges qui forcément ne font pas la différence entre une loutre et un ragondin. Hein.
Bon, bah, allez, on continue notre promenade.
Là, on passe dans la... Ici, il y avait un grand étang, et ce que je voulais, quand on l'a nettoyé, on l'a curé, parce qu'il y avait énormément de vases. On a mis d'un côté, on vient de l'entendre, la mare avec les grenouilles, donc aucun poisson, que des insectes, des têtards, des grenouilles, des tritons. Et de l'autre côté, l'étang. Et on va le voir en coupe, on va descendre en dessous. Et c'est vitré de chaque côté. Donc c'est ça qui est ludique, personne n'a vu. Enfin moi, la première fois que je vois une mare en coupe. Donc, la deuxième fois, parce que là où... Tiens, regarde, c'est sympa, regarde, là t'as carrément une grenouille qui est juste là, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont la voir, parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Nous, ce qu'on veut, c'est tout de suite du spectaculaire. Tu vois, c'est... On veut tout de suite ça.
Du mouvement, quoi.
Du mouvement. S'il n'y a pas un gros poisson, qu'est-ce que l'intérêt que je regarde avec une loupe, un têtard qui vient de se sauver? Difficile, tu vois, c'est pour ça. Mais tu vois, la nature est très souvent discrète. Cherchez et vous trouverez. Ah, voilà, on l'a trouvé. Ouais, ouais.
Après, ce qui est intéressant avec l'eau, c'est que ceci est un indicateur biologique. Tu peux voir la qualité de ton eau en fonction des insectes qui vont s'y développer.
C'est sûr que si t'as pas de vie du tout, tu peux très bien dire, tu peux te dire que vaut mieux pas que je la boive celle-là.
Attends, là, on va faire un écart, parce que là, je vois un mot que j'aimerais que tu me lises et que tu me définisses.
Il y a marqué les zones humides, refuge pour la biodiversité. Alors effectivement, là ici, on voit ce que c'est que la biodiversité. Hein. C'est que ce soit voilà, c'est tout l'écosystème, c'est que ce soit végétal, animal, c'est tout un ensemble. Et donc du coup, c'est pour ça que là sur ce panneau, on montre plusieurs photos de ce qu'on pourrait retrouver autour d'une mare, d'un marécage, d'un étang.
Et l'intérêt écologique de la biodiversité.
On sait qu'il y a 50% des oiseaux et 30% des espèces végétales qui disparaissent. Enfin, qui sont menacés dans notre patrimoine. Donc, du coup, l'intérêt de faire attention à quelle que soit l'espèce, qu'elle soit plus ou moins petite, que ce soit même celle qu'on va aller voir, là, le grand hamster. Là, on parlait de la cigogne tout à l'heure. Mais que ce soit même si un jour il faut se préoccuper des vers de terre, ça sera peut-être aussi important, comme on parle un peu des abeilles aujourd'hui dans le petit refuge, là-bas, voilà. Tout fait partie d'une chaîne. Et on a compris depuis... Beaucoup de gens ont compris depuis quelques années que tout était important, tout était lié. Et qu'un maillon d'une chaîne, s'il manque une partie ou un maillon complet, c'était quand même difficile que ça puisse bien tourner.
Alors j'ai souvent l'impression que l'homme moderne, l'homme aujourd'hui, on va s'émerveiller devant les technosciences, les nanotechnologies, les miracles du progrès. On va être voir un écran plus plein, un ordinateur plus puissant. Alors que la magie, elle est là, elle existe aussi dans des lieux comme celui-là sous nos yeux, où tu as cette interaction avec tous ces maillons vivants d'un écosystème. Est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu de se détourner finalement d'un message simple, beau, qui est là sous nos yeux au détriment de quelque chose de beaucoup plus...
Ouais, on n'est plus habitué à regarder. On passe notre temps devant la télé. Ou devant les journaux, ou devant un ensemble de choses.
Sommes-nous déjà à moitié cuits ? Petit conte d'une grande richesse d'enseignement, le principe de la grenouille chauffée. Imaginez une marmite remplie d'eau froide dans laquelle nage une grenouille tranquillement. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue à nager. La température continue à grimper. L'eau est maintenant chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la grenouille. Ça la fatigue un peu, mais elle ne s'affole pas pour autant. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver cela désagréable, mais elle s'est affaiblie, alors elle supporte et ne fait rien. La température de l'eau continue à monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement finir par cuire et mourir sans jamais avoir fait quelque chose pour s'extraire de la marmite. Si la même grenouille avait été plongée directement dans l'eau à 50 degrés, elle aurait immédiatement donné le coup de patte adéquat qui l'aurait éjecté aussitôt de la marmite. Cette expérience montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Si nous regardons ce qui se passe dans notre société depuis quelques décennies, nous subissons une lente dérive à laquelle nous nous habituons. Des tas de choses qui nous auraient horrifiés il y a 20, 30 ou 40 ans ont été un peu banalisées, édulcorées et nous dérangent mollement à ce jour ou laissent carrément indifférents la plupart des gens. Au nom du progrès et de la science, les pires atteintes aux libertés individuelles, à la dignité du vivant, à l'intégrité de la nature, à la beauté et au bonheur de vivre, s'effectuent lentement et inexorablement avec la complicité consentante des victimes, ignorantes ou démunies. Les noirs tableaux annoncés pour l'avenir, au lieu de susciter des réactions et des mesures préventives, ne font que préparer psychologiquement le peuple à accepter des conditions de vie décadentes, voire dramatiques. Alors si vous n'êtes pas comme la grenouille déjà à moitié cuit, donnez le coup de patte salutaire avant qu'il ne soit trop tard.
On va rebondir un petit peu. Quand on disait que on parlait un peu de ça, parce que c'est vrai que c'est l'année de la biodiversité, donc c'est plus facile d'en parler cette année. C'est un peu à la mode. Mais ça va... Les gens sont quand même sensibles à ce genre de choses, d'action, parce que déjà, quand ils viennent ici, on demande aux gens de payer un certain prix pour venir. Ok, on leur offre un certain service, mais en ressortant, on se rend quand même compte que les gens leur demandent rien, si ce n'est qu'on leur dit qu'ils sont nombreux à venir ici au centre, qu'avec une petite pièce jaune, ils peuvent aider une espèce, entre autres, c'est le grand hamster. Tu vois, l'urne, ça fait seulement un mois qu'elle est là, je la vide tous les 15 jours ou tous les mois. Regarde, ça fait...
C'est une belle recette, c'est mon
une belle recette. L'an dernier, ouais. C'est pas grand chose, mais la dernière fois, c'était 1 200 € qu'on a pu reverser à l'association.
Sur une année, ouais.
Sur une année.
Ouais, c'est bien.
Donc, on parlait de 130 000 visiteurs, comme si chaque personne avait versé 10 centimes de
Ouais, recette. Symboliquement, c'est chouette.
Là, il y a des gens qui mettent des billets, mais ça veut aussi dire que les gens sont quand même sensibles aux actions qui sont menées. On va passer là. Là, regarde, là, tu vas voir un lézard, là, tu le vois là. T'en as un autre là-bas, regarde. Hop, il nous a vu. Là, il va un peu plus vite parce qu'il a vu un. Il a vu quelque chose.
T'as exposé le mur au plein sud, quoi.
Ouais, tiens, regarde. Il est sympa là-bas.
Ouais. Ouais, ça bouge, hein. C'est... Voilà, là, tu l'as ton écran 6 dimensions. Là.
Ouais.
Tu t'assois devant, tu regardes et puis t'attends que ça bouge.
La seule chose, c'est qu'on
bouge,
peut pas zoomer.
On peut pas zapper, non.
On peut pas revenir en arrière.
Ouais.
Mais malheureusement.
Tu sens la chaleur qui se dégage aussi.
C'est vrai, ouais, ouais. J'avais jamais remarqué.
Ouais, tu sens, tu te.
Ouais.
Ah, t'as un micro-climat ici.
C'est vrai, ouais, ouais. Mais c'est des pierres, ouais, ouais, c'est vrai. J'avais jamais remarqué ça, je pourrais faire c'est attention. Bah ouais, ouais, forcément,
ça,
ouais. T'as raison, ouais. Forcément, t'as. Ouais. C'est logique.
Mets ta thermomètre.
Et tu le sens.
Une animation en plus, tu vois, à mettre en place.
Là, les pigeons dans leur boîte, si tu veux, on les fait recouler. Hein. On va mettre le micro et tu vas entendre les pigeons qui sont. Oh là, t'as vu comme ce que je vois là?
Alors, je vois.
L'animal, là.
Et une grenouille avec.
Regarde, Huguette, regarde.
Une bande T'es... blanche.
Hein? Balèze, hein? Oui, retire tes lunettes, tu peux. Non, mais regarde-toi, les grenouilles maintenant, elles sont tellement habituées à avoir du monde. Qu'elles bougent même pas. Et puis, on va y rentrer, si tu veux. Et puis, des pièces d'eau. Ça fait à peu près 300 mètres carrés. La seule chose, c'est que là, comme c'est un animal aussi territorial comme le grand hamster, il a l'habitude de faire ses excréments juste devant, donc tu mets pas les pieds dedans, et puis c'est bon, tu seras tranquille.
On va voir si elle sort, je suis pas sûr qu'elle sorte.
Il faut juste que tu fermes la porte.
Pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de pourcentage de réussite de reproduction si on souhaitait faire de la reproduction. C'est pas le but aujourd'hui, mais ça a été le but de départ, de faire de la reproduction en captivité. Mmh. Première reproduction en captivité en France de loutre, c'était ici.
Mais la loutre en Alsace aujourd'hui, on en est où au niveau des...
Elle se porte pas bien. Elle se porte pas bien parce qu'il y en a malheureusement eu très peu de relâchés. Mon père en a relâché 6. Et aujourd'hui, on pense qu'il en resterait encore une. Mais on n'est plus certain parce que là, on est en train d'élargir encore le territoire pour essayer de retrouver des indices de présence, que ce soit des empreintes ou les excréments, comme ceux qu'on voit là ici. Et pour l'instant, on ne voit plus de traces. On sait qu'elles se sont reproduites dans la nature, de source sûre. On sait que, donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, malgré qu'il n'y en ait eu que 6 de relâchés, il y a eu une adaptation. L'adaptation, au bout de quelques années, une reproduction de source sûre, comme je disais, parce qu'il y en a malheureusement une qui s'est fait accidenter par un prédateur, on ne sait pas si c'est un chien ou un renard ou peu importe. Un chasseur l'a retrouvée et nous l'a amenée à moitié morte. Elle avait la tête écrabouillée, mais elle vivait encore. Et on a fait toutes sortes d'analyses pour essayer de déterminer si c'était la même lignée de ceux qu'on avait relâchés, si c'était ses descendants, et effectivement, voilà, c'était une loutre qui avait 4-5 ans et qui était une descendante de celles qui ont été relâchées. Donc une réussite mais un échec, puisque bientôt on pourra sûrement dire qu'il n'y a plus de loutre d'Europe en Alsace, malheureusement. Si ce n'est que pour elle, l'espèce, ça va un peu mieux dans le centre de la France, Massif Central, donc les gens qui s'en préoccupent, les passionnés, estiment qu'un jour elle reviendra recoloniser.
Mais si elle est partie, c'est dû à la destruction de son habitat ou à la présence humaine a une importance dans sa disparition?
Forcément, comme la plupart des espèces, on ne peut pas le nier. Mais on est aussi là pour essayer de réparer les erreurs quand elles ont eu lieu à un moment donné, que ce soit voilà, pour le hagramster comme tout à l'heure, la cigogne, la loutre, on peut essayer de faire quelque chose. La seule chose, c'est que là, il y a eu des divergences à un moment donné de gens, mon père, avec sa forte personnalité, et puis d'autres, des gens qui étaient un peu opposés sur ce qu'il faisait, qui a fait que, au lieu de relâcher un certain nombre de loutres, où il avait l'accord, on a été obligé d'arrêter. Voilà, malheureusement, le constat au jour d'aujourd'hui, c'est que la loutre, il n'y en a bientôt plus du tout en Alsace, et je ne sais pas dans combien d'années on va en retrouver, même si dans le Massif Central, elle est en train de recoloniser tout doucement.
Pourquoi est-ce qu'on parle du grand hamster et pas de la loutre?
Parce qu'en fait, le hamster, il est, contrairement à la loutre, en France, il vit uniquement en Alsace. Donc il fait vraiment encore plus partie intégrante de notre patrimoine. Et donc, voilà, il vit dans toute l'Europe de l'Est. Il y en a dans certains pays où il y en a peut-être un peu trop. En tout cas, en Alsace, il y en a eu beaucoup plus. Il n'a pas spécialement dérangé qui que ce soit. Et avant qu'il disparaisse, 300 dans la nature, c'est très peu. Et a priori, on est certain, quoi. Faut voir les comptages. Ça se fait, ils sont 30 ou 40 pendant 2 mois à faire des hectares et des hectares, à le moindre trou surveiller. Donc aujourd'hui, en tout cas, on a envie de connaître un peu plus cette espèce pour mieux la protéger, et donc que ce soit tous les partenaires, qu'ils soient en construisant ensemble ou à côté, ou en tout cas dans la même direction, d'essayer de le préserver.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une mission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent pas rond.
Pour plus d'infos, le site du centre de réintroduction des cigognes et des loutres du navire, www.cigogne-loutre.com.